Max.
Le point de Max, l'actu du jour avec une touche de la bouche.
10h17 dans le point de Max à Boulevard 102.1. S'il y a quoi que ce soit, 418-971-1021 par texto. Petit rappel que sur les routes, là, c'est excessivement compliqué. Sur Henri IV, direction sud, donc vers le pont Pierre-Laporte, la hauteur Laurier, perte de chargement des pneus un peu partout dans les voies, ce qui cause bien des problèmes. Là, on devrait être sur le bord d'avoir fini de ramasser. Là, tenez-moi au courant. 418-971-1021. Puis en passant, tout ce qui est l'accès au pont Pierre-Laporte, direction nord également, c'est assez compliqué. Fait que des deux bords, là, pont Pierre-Laporte, pas facile en ce jeudi matin. La météo rappelle que c'est 9 degrés présentement avec de la pluie. Je vous le disais, ça brasse du côté d'Ottawa, ça brasse en politique fédérale. Et pour en parler, Sandra Aubé, qui est vice-présidente des affaires fédérales chez Tact Conseil. Sandra, salut!
Salut!
Ça va bien?
Oui, ça va intense.
Oui, ben c'est ça. Je le disais, ça brasse, puis pas à moitié. Puis on est peut-être même juste dans le début de tout ça, parce que déjà, on commence à se poser la question. Hey, on repart-tu en élection fédérale? Fait qu'on va venir à cette grande question-là. Avant ça, hier, le premier ministre Mark Carney livrait un discours du côté de l'Université d'Ottawa. Puis il a notamment annoncé son ambition de doubler les exportations canadiennes hors États-Unis sur 10 ans. Est-ce que c'est quelque chose d'un peu facile à lancer comme ça dans l'air? Parce que c'est, en tout cas, comment je l'ai compris, puis tu pourras peut-être me ramener à l'ordre, Sandra, mais c'est pas un engagement, c'est quelque chose qu'on aimerait faire. C'est un peu facile à lancer.
Oui, c'est un peu facile à lancer. En même temps, dans la vie, si on n'a pas d'objectif à un moment, on n'a comme pas d'éléments à aller atteindre. Fait qu'il lance cette cible-là. Je pense que c'est un discours qui était beaucoup comme ça. Tu sais, un mercredi soir de tout le monde se faire alarmer, discours de premier ministre. Finalement, on apprend qu'il le fait devant des universitaires. C'est toujours cool d'avoir des discours devant des universitaires. Mais un peu, je sais pas si t'es comme moi. Moi, je suis restée sur ma faim. tu sais, on nous parle d'un déficit catastrophique qui s'en vient avec le budget du 4 novembre. Puis là, on a ce discours-là où on vient un peu mettre des piliers, parler de nos valeurs, parler de ce qu'on a de bien, mais que c'est des temps difficiles, puis essentiellement, il va falloir se serrer la ceinture. Puis je lisais beaucoup de choses. C'est comme des discours, j'en ai vu, là, j'en ai vu autant, j'en ai écrit. C'est sûr que le 300 milliards sur 10 ans, on a tous accroché là-dessus. Et c'est sûr qu'au sud de la frontière, nos amis américains, ils ont regardé ça, ils ont probablement un sourcil qui s'est levé dans les airs, se questionnant pour savoir est-ce que ça veut dire qu'ils vont vouloir moins collaborer avec nous alors qu'on est en négociation. Fait qu'il y a beaucoup de choses. Moi, je vois beaucoup de... Quand on fait un discours comme ça, on parle à différents publics, on envoie des messages à différentes personnes. Puis moi, c'est beaucoup ce que je lisais dans ce discours-là. Comme citoyenne, je suis restée sur ma faim.
On comprend, évidemment, là, puis on nous l'a assez expliqué. Puis à la base, je pense qu'on n'a pas besoin de se le faire expliquer tant que ça, mais notre voisin, les États-Unis, ben, ça a toujours été notre grand partenaire excessivement majeur. On comprend que tu peux pas revirer ton économie sur un 10 cents puis te mettre à faire des affaires avec n'importe qui puis qu'on remplace un peu les États-Unis. C'est pas comme ça que ça marche. Par contre, est-ce que Mark Carney, présentement, fait vraiment tout ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il en fait assez?
Pour diversifier l'économie, pour avoir une entente avec les États-Unis, je pense que ce qu'on me dit, c'est quelqu'un qui travaille très fort, mais tu sais, à la hauteur des défis auxquels on fait face, quand on voit qu'il y a des usines qui ferment, quand on voit qu'il y a de la production qui se fait envoyer aux États-Unis alors que ça avait lieu ici, la question se pose et la question est justifiée. Et la réponse, c'est probablement que non, on n'en fera jamais assez quand tu as du monde qui n'est plus capable de payer son hypothèque, quand tu perds ton emploi, que tu avais un bon emploi. On le sait que, par exemple, tu es le système, on est chanceux, là, on a un filet de sécurité quand on y a accès, par exemple l'assurance-emploi. Mais si tu avais un bon emploi qui payait super bien, tu ne vas jamais rechercher ton salaire en attendant de te replacer. Puis c'est dur de se replacer en ce moment. Fait que, est-ce qu'on en fait assez? T'sais, est-ce qu'on devrait tout le temps être rendu aux États-Unis? Il y a les négociateurs canadiens sont tout le temps rendus aux États-Unis. Puis en matière de diversification, c'est sûr qu'il faut pousser, mais en même temps, il ne faut pas se faire d'illusions. Diversifier une économie, changer nos partenaires commerciaux, ramener de la production ici, alors que, tu sais, il y a quand même un coût qui est associé à ça. Ça va prendre des années, là, comme on parle, tu sais, quand on dit, c'est un changement générationnel, comme c'est cute comme phrase, mais c'est vrai aussi. Ça veut dire que toi, puis moi, puis nos enfants, puis tout comme, on va payer, là, ça va coûter très cher tout ça, dans l'espoir que ça aille mieux. Mais les prochaines années vont être difficiles. J'allais dire récemment, je disais, on va en manger du ballonné, mais apparemment, c'est rendu cher le ballonné, là. Fait que je suis même pas sûre qu'on va pouvoir manger du ballonné.
Je veux pas qu'on aille tout de suite vers est-ce qu'on s'en va en élection bientôt, mais je pense que ma prochaine question va un peu nous y
Ouais.
mener. Il y a combien de temps, Mark Carney? Parce que si on le dit, là, ça, c'est ces changements-là vont prendre des années et des années et des années. Dans le maximum, un mandat dure 4 ans. Là, ça va être moins que ça et avec un gouvernement qui est minoritaire. Il n'y aura pas assez de temps, peu importe ce qui arrive, Mark Carney, pour nous amener où il aimerait ça nous amener.
Non, je pense que son objectif, ça doit être d'avoir un mandat qui va être assez transformateur, qui puisse avoir mené une empreinte, avoir une empreinte indélébile pour le futur, de notre économie. Et probablement espérer pouvoir avoir un autre mandat pour pouvoir faire atterrir ces choses-là. Mais tu sais, présentement, ils annoncent, on crée beaucoup. Moi, je dis qu'on a une structurite au niveau du gouvernement. On est en train de créer une structurite aiguë. On crée des nouvelles agences. On a un sentiment aussi que peut-être qu'il n'y a pas une confiance envers les institutions qui existent maintenant. Alors, on en crée des nouvelles. Encore une fois, ça prend du temps à mettre sur pied. Ça va prendre, tu sais, c'est des ressources. On dit qu'il faut couper dans les ressources au niveau du gouvernement, mais on vient créer ces agences-là. Fait que ça va pas être simple. T'sais, il y a combien de temps, Mark Carney, ta réponse est aussi bonne que la mienne, mais on échangeait, hein, des fois, on échange avant d'aller en onde, puis tu disais, il y a le temps qu'il y a jusqu'aux prochaines élections. Je suis d'accord. Puis les prochaines élections, c'est quand? Ben là, ça va dépendre. Hein. On est dans les fameuses stratégies, les stratégies de communication en amont du dépôt du budget, où on voit, ben là, peut-être que l'opposition appuiera, peut-être que l'opposition appuiera pas. On laisse entendre du côté du gouvernement libéral que on commence à avoir une crainte que les oppositions n'appuieraient pas. C'est une danse qu'on voit tout le temps avant un dépôt de budget, particulièrement quand on est un gouvernement minoritaire, et on essaye, avec ces stratégies-là, de faire porter l'odieux à quelqu'un d'autre par rapport à un budget qui pourrait être difficilement comestible.
Ben, c'est ça. En ce moment, on le voit que ça va être difficile pour les libéraux. C'est le 4 novembre qu'on va déposer le budget. On s'entend que les conservateurs l'appuieront pas, ça, pas mal, peu importe ce qui arrive. Pour ce qui est du Bloc québécois, on a fait des demandes
Oui.
que ça va peut-être être difficile d'aller offrir au Bloc ce que le Bloc demande tout en gardant le déficit. J'allais dire à un niveau qui a de l'allure. Je pense que peu importe ce qui arrive, le
Il n'y aura pas
déficit
d'allure.
n'aura pas d'allure. Fait que là, reste le NPD. On retombe dans le même game que dans les dernières années. C'est le NPD qui va être pogné pour sauver les fesses probablement au gouvernement libéral. C'est ça qui va arriver. Tu parlais de la game là,
Oui.
avant chaque budget. Présentement, oui, on se pose la question, on repart ça en élection bientôt. J'ai l'impression que ça arrivera pas, puis que le 4 novembre, ben le NPD va finir par appuyer les libéraux, puis qu'on va avancer avec ça. Est-ce que tu le vois un peu de la même façon?
Les parlementaires, c'est aussi des ratoureux, hein. Fait que tu peux avoir effectivement un parti qui va dire, moi, j'appuie pas, puis moi, j'appuie, mais ce qu'on voit aussi, puis l'histoire est garante, je pense que l'histoire sera peut-être garante de ce qu'on verra, c'est qu'il y aura possiblement des députés, des partis d'opposition qui auront d'autres choses à faire ce jour-là.
Par
Alors,
hasard.
ils seront absents. Ils seront peut-être en voyage, peut-être en train de rencontrer des intervenants très importants qui feraient qu'il manquerait un vote. Alors, à ce moment-là, puis vraiment, tu sais, on est plus dans les questions de perception, bien que le vote soit pas là, mais à ce moment-là, un parti peut dire comme nous, on n'a pas appuyé ça. C'est comme tout le monde qui était là, qui a voté contre. Mais comme on est, les libéraux sont minoritaires, mais avec comme quand même la différence, c'est pas grande. Ça veut dire que tu pourrais seulement avoir peut-être, je sais pas, 5, 6, 7 députés de tous les partis qui sont pas là. Puis à ce moment-là, le budget, lorsqu'on votera dessus, il passerait. Fait que comme c'est une game de Snorro.
Est-ce que quelqu'un a vraiment quelque chose à gagner présentement à repartir en élection? Parce que si on fait le tour des partis, Le Parti libéral, j'imagine qu'on veut rien savoir. Là, on a gagné les élections. Oui, on est minoritaire, mais on nous présentait Mark Carney comme le gars qui allait nous sauver face à Trump. Puis c'est pas ça qui arrive. Je suis pas sûr qu'il y aurait autant d'appui aux prochaines élections. Fait que le Parti libéral voudrait pas retourner en élection, ça c'est certain. Le NPD non plus. On n'a pas de chef présentement.
On est en course à la chefferie, exact.
On n'a pas beaucoup d'argent non plus dans les coffres, de ce que je comprends. Fait qu'on enlève le NPD aussi. Le Bloc québécois, bon, ça, je sais pas trop. Pour ce qui est des conservateurs, la question est intéressante parce que d'un côté, ben, je parlais de Mark Carney qui, potentiellement, lui, doit se dire, ouais, si on part en élection, ça se peut que je sois plus premier ministre. Mais de l'autre bord, chez les conservateurs, on n'est pas nécessairement dans une excellente posture, particulièrement avec ce qui s'est passé cette semaine, la controverse de Pierre Poilievre, où il y a un genre de cassure à l'intérieur du parti. Il n'y a personne qui veut des élections en ce moment.
Je pense qu'il n'y a personne. Je pense que tu as raison là-dessus. Il n'y a personne qui veut des élections en ce moment, qui pourrait faire des gains. Peut-être qu'au Québec, le Bloc, avec une bonne campagne, pourrait espérer faire des gains. Au niveau des libéraux, je pense qu'il n'y a personne qui va vouloir déclencher une élection. Il n'y a personne qui veut avoir l'odieux de déclencher une élection, mais que si... Puis je parle pas de manière, je n'ai pas parlé à personne là, au parti, c'est vraiment juste ma lecture, que si un vote était perdu là-dessus, un vote de confiance, il pourrait faire campagne là-dessus. Est-ce qu'on a envie de partir en campagne? Personne qui a envie de partir en campagne présentement. Puis du côté des conservateurs, ben oui, on a vu du grenouillage puis des premières tensions. Ça fait beaucoup de bruit parce que on est habitué hein, de voir les rangs conservateurs très unis, alors d'entendre des voix qui demandent anonyme, là, cela étant dit, de voir des voix s'élever, c'est inhabituel, mais c'est des éléments qui sont tout à fait normaux dans un parti. Tu sais, c'est juste que c'est, je dirais que c'était peut-être le premier test de M. Poilievre qu'on voit à ce niveau-là. Alors, ils ont dû patiner davantage ou on se remet de la pâte à dents dans le tube. Mais pour l'instant, moi, je ne suis pas. Il y a des questionnements, c'est certain, de la part des grands bonzes conservateurs, mais comme il y a encore beaucoup d'eau là, qui va couler avant qu'on voit quelques changements que ce soit.
C'est arrivé plus tôt cette semaine, mais j'aimerais quand même ça qu'on en parle parce que c'est important, puis ça peut avoir une incidence sur la suite des choses chez les conservateurs. Ce qui s'est passé avec Pierre Poilievre, là, pour ceux qui n'ont peut-être pas trop suivi, Pierre Poilievre qui est allé dans un podcast et qui, en gros, a lancé, puis je paraphrase vraiment, mais si la GRC avait fait sa job au lieu de protéger Justin Trudeau, ben possiblement que Justin Trudeau serait en prison. C'est à peu près ça qu'il a comme lancé. C'est dangereux, ça ressemble à un discours qu'on voit beaucoup chez nos voisins du Sud avec Donald Trump qui lance des paroles comme ça, un peu des fois en l'air. C'est grave ce qu'a dit Pierre Poilievre.
C'est préoccupant dans une démocratie où on a des institutions en place et où on a une division des pouvoirs. T'as des gens qui font de la politique, du politique, qui sont élus pour ça. Puis t'as des gens comme la GRC, comme les corps de police, qui vont regarder au niveau des éléments criminels, qui font leurs enquêtes, qui font leur travail. On ne doit pas avoir d'ingérence. Et ce que ça laisse sous-tendre, c'est qu'il pourrait possiblement y en avoir. Donc, c'est sûr que c'est préoccupant. Je pense qu'ils ont essayé beaucoup de, comme je disais, de remettre de la pâte à dents dans le sud. Mais pour une démocratie comme la nôtre, puis quand on voit ce qui se passe au sud de la frontière, c'est sûr que je pense qu'on doit tout faire pour s'assurer que nos institutions sont fortes, puis qu'on a confiance, que des leaders puissent venir ébranler la confiance par rapport à nos institutions. Ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on doit regarder. Là.
Mais Sandra, tu as travaillé à l'interne au niveau du gouvernement fédéral dans les dernières années. Je suis curieux de t'entendre. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire, Pierre Poilievre, avec ça? Il l'a-tu vraiment juste échappé ou s'il a essayé de galvaniser sa base qui est peut-être plus à droite, très anti-Trudeau, en se disant « Hey, ça a marché avec Donald Trump, on va l'essayer nous autres aussi. » C'est tout ça. Est-ce qu'il pensait que c'était stratégique ou il l'a juste vraiment échappé vite fait de même puis ça a eu des conséquences plus qu'il pensait?
Ben, je peux pas répondre pour Monsieur Poilievre. Je pense. D'ailleurs, il vient à Québec. Hein, il vient le 6 novembre pour donner un discours. Je pense que ce sera son premier discours là, en réaction au budget fédéral. Fait que ce sera intéressant. Je t'invite à l'inviter puis à lui poser cette question là, puis voir comment il va répondre. Mais c'est sûr que quand tu sais, je parlais tantôt sur un autre sujet des différents publics. On s'en va parler à différentes audiences. On va adapter parfois le message, mais c'est important que le message qu'on adapte soit jamais complètement déconnecté l'ambiguïté du narratif global. Et c'est là où on se dit, est-ce que, justement, est-ce qu'on l'a échappé ou est-ce que c'était intentionnel? Parce qu'on vit dans ce, t'sais, dans notre monde interconnecté, là. Tu fais un podcast, c'est sûr que ça va avoir un extrait qui va se retrouver à quelque part. C'est sûr que tout le monde écoute. Comme, il y a différentes stratégies autour de ça. Fait que l'extrait s'est ramassé en ligne. Puis là, ça fait un peu rebelote. Je pense qu'il y a un élément qui est, qui est beaucoup... qui fait que les gens se questionnent, notamment au niveau du Parti conservateur, pour les conversations que j'ai eues, c'est que c'est un parti qui est historiquement, tu sais, ils sont très prêts puis respectent beaucoup les gens qui sont en uniforme, les forces de l'ordre, comme les services policiers, les forces militaires. Donc, je pense que tout le monde a fait comme, wow, comme, qu'est-ce qui se passe? Comme, qu'est-ce qui se passe là? Donc, ça a amené certains, ça a amené des questionnements. Est-ce que c'est un dérapage? C'est une bonne question. Je suis pas capable d'y répondre, mais certainement, ils ont dû faire du contrôle, du damage control en mauvais français cette semaine.
Sandra Aubé, vice-présidente des affaires fédérales chez Tact Conseil. On jasait des différents dossiers. Là, ça a brassé pas mal à Ottawa fédéral cette semaine. On fait ça bientôt. Bientôt, Sandra!
Salut!
Merci beaucoup.
À la prochaine.
Bye-bye. Au retour de la pause, discussion que j'ai très hâte d'avoir avec Stéphane Lachance, le chef de Respect citoyen, qui se retrouve en tête d'affiche d'un texte du Soleil ce matin. Permis suspendu et poursuite. Stéphane Lachance a accumulé les retards de paiement. Il se défend sur nos ondes. Dans quelques minutes, vous écoutez le Point de Max à Boulevard. Il est 10h33.
Le Point de Max.